Donc vous savez, on parcourt l'évangile de Luc. L'évangile, c'est l'un des livres de la Bible qui retrace la vie de Jésus. Il y en a quatre, et écrit donc par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et donc, on parcourt l'évangile de Luc. On regarde comment Jésus accueillait les gens, comment les rapports de Jésus et de ses contemporains qui attendaient le Messie. On souligne ces aspects-là pour nous mener jusqu'à Pâques, où on parlera notamment de la mort, de la résurrection du Seigneur. Et vu que les textes sont très très riches, et dans notre lecture quotidienne, on est appelé à partager chaque matin ici, comme Jean l'a fait. Je voudrais revenir en arrière sur un passage que j'avais lu et qui m'avait captivé, et j'avais donc creusé un peu plus le texte. Donc je vous invite à prendre Luc au chapitre 7, les versets 18 à 35. Et je vais le lire, si vous voulez suivre dans vos Bibles. Luc 7, 18 à 35. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Alors, il s'agit de tout ce que Jésus avait fait. Jésus avait opéré plein de miracles, des guérisons, la délivrance de démoniaques. Il avait même ressuscité un mort. Et donc, il avait fait tellement de choses et sa renommée était répandue dans tout le territoire. Et Jean était en prison. Il a été informé de tout cela. Alors, Jean appela deux de ses disciples, il les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Lorsque, verset 24, les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans des maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération ? Et à qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent aux enfants aussi dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, il est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Alors, on se souvient, Jean, c'est le prophète envoyé pour préparer, comme on l'a lu, la venue de Jésus. Préparer les cœurs à recevoir Jésus. Et notamment, Jean va prêcher le baptême de la repentance. Les gens qui vont se reconnaître pécheurs viendront à lui et il va les baptiser de ce qu'on appelle le baptême de la repentance. Et donc Jean, dans la lecture que je viens de faire, Jean il est en prison. Pourquoi il est en prison? Et parce que il avait dénoncé les mauvaises actions du roi Hérode. Il n'avait pas peur de se faire mettre en prison. Il avait dénoncé ouvertement, fermement. Et là, on peut voir que les dirigeants tyranniques, ça n'existe pas qu'aujourd'hui. À cause de sa droiture, de sa justice, il se fait mettre en prison. Et ici, on assiste donc à un échange indirect entre Jésus et Jean-Baptiste. Et on peut... Cet échange, c'est l'un des rares échanges qui a pu avoir entre Jean-Baptiste et Jésus. Et je reviendrai là-dessus. Et là, c'est par personne interposée. Il envoie ses disciples poser une question à Jésus. Et une autre occasion où les deux hommes avaient discuté, c'était notamment lors du baptême de Jésus, quand Jésus se faisait baptiser par Jean. On peut aussi citer la fois où les disciples de Jean-Baptiste sont venus poser une question sur le jeûne à Jésus. Donc, il n'y a visiblement pas eu beaucoup de contact entre les deux hommes. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, Jean-Baptiste est en prison. Et à cause de ce qu'il a pu dire au roi. Et Jean-Baptiste, comme les Juifs à cette époque, était gouverné par un autre peuple, les Romains. Ils étaient donc dominés par les Romains, c'était l'envahisseur. Et ils attendaient que Dieu leur envoie un libérateur. Ils voyaient dans le Messie que Dieu avait promis, quelqu'un qui allait les dégager du joug romain, tellement c'était pesant pour eux. Mais on sait que Jésus qui est venu, c'est pas à ça qu'il s'est attaqué, à mettre hors du peuple les Romains. Vous vous souvenez, à la période des juges, plusieurs fois le peuple désobéissait aux lois et aux ordonnances de Dieu, et Dieu leur avait dit, si vous faites ça, je vais vous livrer à vos ennemis, et ils vont vous maltraiter. Et c'est arrivé plusieurs fois, jusqu'au moment où le peuple se retournait vers Dieu et criait à Dieu, demandait pardon, et Dieu suscitait du milieu du peuple quelqu'un qui allait les mener vers la délivrance, vers la liberté, et jusqu'à la prochaine rechute. Donc, dans le livre des Juges, on assiste beaucoup à cela. Et donc, Jean-Baptiste aussi, il attendait cela, la délivrance de l'ennemi, du peuple, de l'envahisseur, de l'oppresseur romain. Mais dans sa prison, il était à un moment de sa vie où il a posé une question qu'on peut, on peut comprendre. Lui qui était injustement mis en prison se pose cette question. Aller demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou on doit attendre une autre personne? Celui qui doit venir se réfère au Messie que Dieu avait promis. Et Jean-Baptiste, je vais vous proposer de retrouver l'évangile de Jean au chapitre 1. Jean-Baptiste qui avait donné deux témoignages très très marquants de ce qu'il savait de la révélation sur Jésus. Et je vais vous le lire ce qu'il avait dit en Jean 1 au verset 29. Jean 1, 29. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est lui. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et un peu plus loin, au chapitre 3, il va rendre un autre témoignage. Chapitre 3, verset 27. Je vais vous le lire. Jean répondit, un homme, on lui avait dit que les gens partaient vers Jésus, se fait baptiser. Et il a dit, un homme ne peut recevoir que celui qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit que je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et entend l'époux éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne, là, Jean, il est libre. Cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut que je croisse et que. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Il parle de Jésus. Celui qui est de la terre, il parle de lui, est de la terre. Et il parle, celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Donc, avec toutes ces choses que Jean a pu dire, et la situation qu'il vit, il est devant un dilemme, il se pose la question, mais Jésus, est-ce que tu es celui qui doit venir ? Alors qu'il a dit un instant, quand il était libre, Jésus est au-dessus de tout. Jésus est celui qui est envoyé par Dieu. Mais on voit dans la suite de notre verset que la réponse de Jésus, elle n'est pas tranchée. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non, je suis celui qui doit venir. Mais à l'instant même, il va opérer encore des miracles. Il va guérir des malades. Il va délivrer des démoniaques. Il va ouvrir la vue aux aveugles. Il va purifier les lépreux. Un peu comme pour dire, il va dire aux disciples, allez rapporter cela à Jean-Baptiste. Un peu comme pour dire, je suis la personne qui est en train d'accomplir les prophéties qui avaient été citées par le prophète Ésaïe dans son livre au chapitre 61. Et dont Jésus lui-même reprendra cette prophétie au début de l'évangile de Luc, quand il va rentrer dans une synagogue et qu'on va lui rendre le livre de la loi, il va lire ceci. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. » Il est en train de dire, je suis la personne qui a accompli cette prophétie. Et juste une petite parenthèse que j'ouvre rapidement, et que je vais aussi vite fermer, c'est que dans la Bible, il y a des centaines de prophéties, et plus de 300 d'entre elles ont été accomplies dans la personne de Jésus. Ça représente une probabilité tellement infinitésimale qu'une autre personne à elle seule puisse ne serait-ce qu'accomplir 8 de ces prophéties. Alors, les savants mathématiciens ont fait le calcul, c'est juste impressionnant. Et même, on a des images pour nous représenter un peu la chose, combien il est vraiment difficile, impossible qu'une seule personne puisse accomplir autant de prophéties. Mais en Jésus, ça a été accompli. Comme quoi, pour attester qu'il est réellement celui qui devait venir. Ça, c'est la réponse que Jean devait avoir en tête après le retour de ses disciples. Mais imaginons-nous quelle aurait pu être la réaction de Jean quand les disciples viennent lui rapporter cela. Moi, à la place de Jean en prison, j'aurais dit, d'accord Seigneur, Tu guéris les gens, tu donnes la vue aux aveugles, tu chasses les démons, tu purifies les lépreux. Mais moi qui suis emprisonné injustement, qu'est-ce que tu fais pour moi? Moi, ça aurait été ma réaction, ça. Est-ce que ça a été la réaction de Jean? Enfin, on ne sait pas. Mais moi, j'aurais pu dire, c'est moi qui suis en train de souffrir, Seigneur. C'est moi qui suis en prison. Tu fais cela aux autres, mais à moi, qu'est-ce que tu fais? Mais Jésus n'a rien fait. Peut-être que Jésus n'a même pas été en prison, le visiter. Et Jésus ne fera rien d'autre jusqu'à ce que Jean soit décapité quelque temps plus tard. Il ne fera rien. On peut se dire, mais on ne comprend pas comment le Seigneur agit. C'est normal. Les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Tout ce que le Seigneur a dit au verset 23, il va dire, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Et moi, je comprends ce verset en rapport avec Jean, qui, lui, s'attendait à un libérateur, à quelqu'un qui allait rétablir la justice, peut-être en commençant par sa personne. Je comprends cela comme Jean qui n'a pas eu du Seigneur ce qu'il avait escompté, ce qu'il espérait du Seigneur, ce qu'il attendait du Seigneur. Peut-être qu'il attendait un peu comme si le Seigneur le lui devait. Et quelque part, Jean n'a pas tort d'attendre du Messie, quelqu'un qui va délivrer le peuple de l'envahisseur romain. Une promesse de Dieu, de l'Éternel à son peuple, c'était « Si vous m'obéissez, je vous délivrerai toujours de vos ennemis, si vous ne transgressez pas mes lois. » Et cette promesse est toujours valable. Sauf que le peuple était loin de Dieu. Si le peuple était retourné à Dieu, à coup sûr, Dieu devait les délivrer des Romains. Mais Jésus serait toujours quand même venu parce que Jésus a été envoyé pour sauver, non pas des hommes, mais du péché, pour sauver de Satan, pour sauver de l'enfer, et pas des hommes. Et Jésus a qualifié le doute qui a assailli Jean dans sa prison ici, Jean qui était pourtant un très grand homme de Dieu. Il a qualifié cela d'une chute. Et il nous met en garde aussi à nous de tomber de cette même manière. C'est-à-dire en attendant du Seigneur qu'il fasse des choses pour nous, comme s'il nous le devait. Comme si c'était dans notre droit que le Seigneur nous le fasse. Bien sûr, nous pouvons demander tout ce que nous voulons au Seigneur. Nous pouvons lui parler de tout ce qui nous concerne. Mais nous ne devons pas lui demander avec cet esprit, comme si nous le méritions, comme s'il devait absolument nous le donner. Et Jean, dans cette situation, me fait penser à une personne dans la Bible, Job, qui est aussi un homme intègre et droit devant Dieu. Mais quand les malheurs se sont abattus sur lui, il s'est plaint pendant près de 30 chapitres devant Dieu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi qui suis un homme juste. Mais à la fin, Dieu a mis le doigt sur son orgueil, en lui montrant que lui, il n'était rien et que Dieu était tout. Dieu était souverain et Dieu contrôlait toutes les circonstances. Et nous aussi, nous pourrions traverser des moments difficiles pendant lesquels le diable nous tente, nous pousse à douter de l'amour de Dieu, de sa compassion, de sa souveraineté, de ses soins pour nous. Nous ne devons pas douter de ces choses-là, mais demander pardon au Seigneur de nous les montrer constamment. Pardon. J'ai lu avec vous le témoignage que Jean a donné de Jésus. Mais dans la suite de notre passage, c'est Jésus qui va donner un témoignage sur Jean. C'est Jésus maintenant qui va donner un témoignage immense, d'ailleurs, très grand, très puissant sur Jean. Jésus va dire, une fois que les disciples de Jean soient repartis, « Qu'êtes-vous allé voir au désert un roseau agité par le vent ?» Absolument pas. « Qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu de vêtements précieux? Non. Jésus soulignait la fermeté, la droiture de Jean. Jean n'était pas comme cette herbe qui se plie dans tous les sens où le vent souffle. Il n'était pas du type à courber les chines au premier venu. Jean était droit dans ses bottes. Il regardait ses contemporains et les traitait de race de vipères. Il était très ferme. Il n'avait pas peur que les gens ne viennent pas à lui pour se faire baptiser. Il n'était pas à chercher le nombre ou à chercher l'approbation des hommes. Il était là pour faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Jean était ferme. Et c'est ça qui lui a valu cet emprisonnement injuste. Aussi, il nous est dit que Jean s'habillait de vêtements de poils de chameau, ceinture de cuir, il mangeait du miel sauvage et des sauterelles. Il avait une vie très très simple. Il n'était pas de connivence avec les grands hommes de cette époque. Ce n'est pas dans un château ou dans un palace qu'on aurait trouvé Jean, mais plutôt dans les déserts. Voilà des choses que Jésus souligne sur Jean. Et il va plus loin. Et il dit, Jean n'était pas qu'un prophète, mais le plus grand. Il était plus qu'un prophète. On peut, dans l'Ancien Testament, penser à Ésaïe, penser à Élie, penser à Élisée, penser à Jérémie, à tous ces prophètes qui ont fait de grandes choses, de grands miracles, qui ont donné de grands oracles du Seigneur, de Dieu, et penser que ce sont eux. Mais non. Jésus dit ici, de tous les hommes ou femmes qui ont passé sur cette terre, il n'y en ait pas un qui soit au même niveau que Jean. C'est lui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin. » Jean était un peu à la croisée des chemins entre l'ancienne alliance et le nouveau. C'était lui le dernier prophète que l'Éternel avait envoyé pour préparer la venue du Seigneur. Et nous autres, est-ce que nous tenons ferme la vérité que le Seigneur nous donne ou parfois nous nous laissons compromettre par tout ce que le monde nous propose? L'argent, on suit l'argent, ou bien on suit le courant du monde, on suit ce que la majorité dit, bien que ce soit contraire à ce que nous croyons. On est guidé par le travail, par l'appât du gain, on est guidé par la politique ou la philosophie. Est-ce que ces choses nous courbent dans la direction qu'elles nous imposent, ou nous sommes fermes et bâtis sur Christ et solidement enraciné sur lui pour ne pas nous laisser entraîner par tout ça? Et Jean aussi, c'était quelqu'un de très humble. Il a répondu aux gens qui étaient venus l'interroger sur qui il était en disant « Je ne suis qu'une simple voix. Je ne suis rien. Je suis qu'une simple voix qui crie dans le désert. » Je trouve ça vraiment grandiose, ce témoignage que Dieu, que Seigneur Jésus donne de Jean. Jean était aussi humble. Et ça nous met aussi le défi que même si Dieu nous utilise puissamment, nous pouvons rechercher cette position d'humilité. Et donc, malgré toutes ces qualités de Jean, Jésus va contraster en disant ceci. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. C'est un peu comme pour dire aujourd'hui, le plus idiot des hommes est plus intelligent que le plus intelligent de tous les animaux. Simplement parce que la race humaine est supérieure à la race animale. De même, la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne. C'est ce que nous décrit Hébreux. Et qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Romains 14, 17 nous dit, le royaume de Dieu, c'est la justice. Il était juste, Jean-Baptiste. Mais c'est aussi la paix et la joie. Et on ne peut pas en dire autant pour Jean-Baptiste. Il n'avait pas de paix, il n'avait pas de joie dans sa prison, comme l'apôtre Paul, qui dans les mêmes conditions, emprisonné, était à prier, à encourager ceux qui étaient libres à toujours être joyeux dans le Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et le royaume de Dieu, on y rentre ou bien on appartient au royaume de Dieu, lorsqu'on a reçu l'Esprit de Jésus, au travers de la repentance à nos péchés et de la foi au Seigneur, qui est mort et ressuscité pour nous, selon ce que dit Romains 19. Ne me demandez pas comment le Saint-Esprit vient à l'homme, je ne saurais pas vous l'expliquer avec les détails, tout comme je ne saurais pas vous expliquer comment les ondes radio arrivent via l'antenne de ma voiture en mouvement et produisent de la musique dans le poste radio. Je ne saurais pas non plus, mais c'est une réalité. Quand le Saint-Esprit vient dans l'homme, il change sa vie. Et le Seigneur, je sais que je l'ai reçu, et j'espère aussi pour vous. Et cela se voit à travers la manière dont nous sommes changés continuellement. Aussi, dans le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, il ne s'agit pas d'un lieu physique dans lequel nous sommes transportés. La preuve, nous sommes encore dans ce monde avec d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais c'est en quelque sorte rentrer dans la nouvelle alliance que le Seigneur a établie pour nous. Et quand Jésus dit que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste, qui était dans l'ancienne alliance, on peut voir cela comme quoi Dieu, aujourd'hui, nous donne plus de moyens pour vivre une vie de piété, une vie aux exigences morales plus élevées, mille fois plus élevées que les personnes qui étaient dans l'ancienne alliance. Et j'ai souvent pensé à cette question, combien je serais tellement malheureux que le Seigneur me dise que malgré le fait que je sois dans la nouvelle alliance, j'ai vécu une vie avec des exigences morales plus basses que les personnes de l'ancienne alliance. Et aussi, on peut voir que c'est peut-être la première raison pour laquelle Jean-Baptiste a chuté. Il a douté que le Seigneur Jésus soit le Messie envoyé, peut-être parce qu'il n'était pas dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, ou dans le royaume de Dieu, comme on l'a dit, c'est pas que la justice, mais c'est aussi la joie et la paix en toutes circonstances. Et je voudrais peut-être ajouter une autre raison pour laquelle Jean-Baptiste a pu chuter. En étudiant la Bible, on peut voir que Jean-Baptiste n'a pas beaucoup été au contact de Jésus. Ils se sont rencontrés très peu de fois. Jean-Baptiste a passé toute son enfance et beaucoup de temps dans les déserts. C'est ce que nous dit Luc 2, 30, que Jean-Baptiste demeurait dans les déserts, croissait et se fortifiait en esprit jusqu'au jour où il se présentait devant Israël. Et pendant tout ce temps, Jésus, lui, était à Nazareth avec ses parents, avec ses frères et ses sœurs, et vivait une vie complètement anonyme et ordinaire. Et quand Jésus va rencontrer Jean-Baptiste pour la première fois, ce sera lors du baptême. Et après ce baptême, Jésus va être transporté dans les déserts, il va passer 40 jours et 40 nuits, et quand il va revenir, il aura son ministère en Judée, et Jean-Baptiste aura son ministère dans la Décapole. Donc les deux hommes se rencontreront peut-être plus, jusqu'au jour où Jean-Baptiste va se faire mettre en prison, et Jésus, quand il va apprendre cette nouvelle, il va encore partir très loin de là où est Jean-Baptiste, il va retourner en Galilée. Donc, peut-être que Jean-Baptiste n'a pas beaucoup côtoyé le Seigneur. Pourquoi? Peut-être qu'il n'a pas connu la pensée du Seigneur, il n'a pas connu les voies du Seigneur, il n'a pas su que le Seigneur ne guérit pas toujours. Vous vous souvenez à Bethesda, où il y avait des multiples malades qui attendaient la guérison miraculeuse, Jésus a guéri une seule personne. Peut-être que Jean-Baptiste aurait vu ça, se serait dit, le Seigneur ne guérit pas toujours. Il y a des situations que le Seigneur permet dans nos vies. Mais nous, par rapport à Jean-Baptiste, on est de l'autre côté. On est après la venue et la mort de Jésus. Nous, on marche avec le Seigneur chaque jour. On apprend comment il fait. On voit comment il fait avec les gens. Mais est-ce que nous ne serons pas aussi parfois tentés quand les situations, les circonstances deviennent difficiles, on a l'impression que rien n'avance? Est-ce que nous ne serions pas aussi tentés de parfois nous décourager, de parfois nous plaindre à l'égard du Seigneur, de pester contre lui, de dire, mais Seigneur, j'arrive pas, je m'en sors pas. Alors que chez les autres, ça semble aller très bien. Mais chez moi, j'arrive pas. Est-ce que nous ne serons pas parfois tentés de tomber pareillement? Que le Seigneur nous garde d'en arriver là. Qu'il nous garde d'en arriver là, parce que il nous montre comment il fonctionne. Il nous enseigne aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance quelles sont ses pensées. Il ne donne pas aux uns aux autres la même chose. Il ne gère pas les cas, les situations des frères et des sœurs de la même façon. Je reprends le texte et Jésus dit ceci. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. L'éloge donc de Jean-Baptiste à Jean-Baptiste continue. Même les publicains, les personnes qu'on n'aurait rien espéré d'eux, qu'ils se repentent, eux aussi l'ont fait. Et en prenant ce baptême de Jean, ces personnes montraient qu'ils étaient convaincus de leur péché. Et les publicains donc, c'était des juifs qui travaillaient pour les Romains. C'était un peu des traîtres. Mais eux aussi sont venus à la repentance. Mais il y a cette frange de la population, les pharisiens ou les docteurs de la loi, qui s'estimaient sans doute être sans péché, que eux n'avaient pas besoin du baptême de la repentance. Et comme son nom l'indique, baptême de repentance, c'est pour ceux qui se repentent de leurs péchés. Pour eux, il n'y avait rien à se repentir. Et voilà le meilleur moyen pour lier les mains de Dieu, pour qu'ils ne puissent rien faire dans nos vies, de ne pas se repentir, pour ne pas rentrer dans le royaume de Dieu, de ne pas se repentir. Tant qu'on ne commence pas par reconnaître qu'on est pécheur et qu'on continue à violer la loi de Dieu, on ne peut pas accéder à l'étape d'après. De ressentir le besoin d'être pardonné par Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Pour être sauvé, il faut se tourner à Jésus. Seulement ainsi, le dessein de Dieu, celui de nous faire ressembler à Jésus, pourra s'accomplir. Bien sûr, à condition de marcher chaque jour dans la lumière, avec une conscience sans reproche. Le Seigneur, en continuant de parler des pharisiens et des docteurs de la loi, il va utiliser une illustration pour montrer à qui il ressemble. Et j'avoue que ça m'a beaucoup marqué, parce que cette image décrit très bien les gens même de notre génération, pas que du temps de Jésus, mais aussi des gens avant son époque. Cette image souligne le simple fait que l'homme de nature cherche toujours des arguments ou des excuses pour ne pas accepter les opinions, les pensées des autres, ou pour changer les siennes. Et vous remarquerez, parfois, on veut répondre à ce qu'on nous a dit. On commence par « mais » ou « j'entends ce que tu dis, mais » je ne dis pas qu'il ne faut pas confronter les idées. Non, il faut les confronter, il faut discuter. Mais cela doit être fait avec un esprit, avec bienveillance, avec respect, et non dans un esprit de contradiction. Et le Seigneur dit au verset 31, « À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemble-t-il ? » Verset 32, « Il ressemble aux enfants assis dans la place publique, et qui, se parlant les uns aux autres, disent, Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Toujours des excuses à avancer. Ces enfants, on s'en doute dit, vous n'avez pas très bien joué à la musique, c'est pour ça qu'on n'a pas dansé, ou vous n'avez pas très bien chanté la complainte et on ne pouvait pas pleurer. Toujours des excuses. Et j'avoue que je trouve parfois ça, cette attitude aussi à moi. Et cette attitude, je le retrouve aussi chez beaucoup de personnes. Quand par exemple, on leur présente Jésus-Christ comme le moyen pour être sauvé, quand on leur dit confesse tes péchés, crois en lui, tu seras sauvé, j'entends parfois dire, ah non, c'est trop facile. C'est trop facile de dire ça et d'être sauvé. De dire, je crois en toi Seigneur, mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé. Non, c'est trop facile. Oui, c'est vrai. C'est trop simple, mais c'est Dieu qui a voulu que ce soit simple, à ce stade-là, que ce soit simple. Et on a un exemple dans l'Ancienne Alliance où un très grand homme du peuple syrien, un général de l'armée, était atteint d'une lèpre et on lui a dit, va en Israël, en Samarie, il y a un prophète là-bas qui peut te guérir. Il a pris tout son cortège, des chevaux, de l'or, de l'argent pour le prophète. Et il est arrivé là-bas, le prophète ne l'a pas reçu. Le prophète a dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras purifié de ta lèpre. Ah, lui, il a pris ça pour une offense, qu'on ne l'estime pas et qu'on lui demande une chose trop simple. Pour lui, il aurait même pu le faire dans son pays, dans des fleuves plus grands que le Jourdain. Mais c'est un de ses soldats qui a dit, général, sauf ton respect, le prophète a demandé de faire un truc, une chose très simple. S'il t'avait demandé une chose plus compliquée, n'est-ce pas, tu l'aurais fait. Et là, il a changé d'avis et il allait se plonger, il a été purifié. Et de notre côté, quand on présente aux gens le côté où il y a un prix à payer pour être dans la vie chrétienne, ils répondent aussi souvent, ah non, la vie chrétienne est trop exigeante. Et que c'est trop difficile. En réalité, elle n'est pas difficile. Elle est juste impossible sans l'aide du Seigneur. Et aussi dans les évangiles, on verra que le Seigneur a parfois dit des paroles que des gens ont trouvées très difficiles et l'ont abandonnées. Une fois, il a parlé de son corps, de sa chair qui se plaint, qu'on doit prendre, de son sang qu'on doit boire pour avoir la vie éternelle de façon imagée. Et beaucoup de ses disciples l'ont abandonné. Il est resté seulement avec les douze apôtres. Donc, ce que disait Jésus sur cette tendance de l'homme à toujours chercher des excuses était vrai avant lui. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Et ainsi, lorsque les gens trouvent toujours quelque chose à rajouter qui va l'opposé de ce que moi j'ai dit, aujourd'hui, ben, j'essaye pas de les convaincre. Il n'est pas question par la force de convaincre les gens à changer leurs opinions, mais simplement à discuter. Et à donner son avis, son opinion, de manière bienveillante. Ici donc, les pharisiens diront que Jean a un démon. C'est pour ça qu'on ne va pas se faire baptiser par lui. Ou alors, on ne va pas suivre Jésus, parce que Jésus c'est un mangeur, c'est un buveur, c'est un ami des gens de mauvaise vie. On l'a encore vu en début d'introduction de notre culte, les gens de mauvaise vie. Les gens peut-être prostitués, des débauchés sexuels, des brigands, des corrupteurs ou des corrompus. Voilà les gens avec qui Jésus passait du temps. Mais les pharisiens, lorsqu'ils le disent, ils le disent sous un ton accusateur, sous un ton de calomnie, pour ternir l'image de Jésus. Mais moi, je rends grâce qu'ils aient dit ça. Parce que pour un pécheur que je suis assuré, je suis content de savoir que le Sauveur du monde recherche la présence de ces personnes-là. Si les pharisiens, c'était pour l'accuser en disant qu'il doit commettre les mêmes choses qu'eux, c'était pas ça. Parce que la Bible nous dit que Jésus n'a commis aucun péché, quoi qu'il fût tenté comme nous. Et donc, en disant qu'il est l'ami des gens de mauvaise vie, moi je me dis, merci Seigneur que cela soit écrit. Ça veut dire que Jésus peut être mon ami, malgré mes péchés. Et je pense à cette femme samaritaine qui était au bord du puits, qui vivait toute seule, coupée des relations sociales avec les autres femmes. Et imaginez sa réaction quand elle aurait appris que le Messie qu'elle attendait, le Sauveur du monde, recherchait l'amitié, la présence des personnes comme elle, pour les sauver, pour leur donner une nouvelle vie. Jean, c'était le baptiseur. Il baptisait les gens qui venaient à la repentance, et ça s'arrêtait là. J'imagine pas Jean autour d'une table, en train de manger, exhorter les gens. Il était plutôt le type de l'action, du ministère, de la mission, en train d'annoncer, en train de baptiser. Mais Jésus allait au-delà de ça. Jésus, c'était l'ami. L'ami qui prend le temps de discuter, de parler, d'écouter, de compatir et de savoir ce que les gens, ce par quoi les gens passent. Il pouvait sonder les cœurs des gens juste en les regardant, en sachant ce qui ne va pas, et leur donner une parole d'encouragement. Nous, on ne peut pas voir dans les cœurs, mais nous, on peut prendre le temps d'aller vers ces personnes que le monde met de côté. On peut aller parler à ces personnes-là qui sont en souffrance pour comprendre ce par quoi ils passent et les encourager et prier avec eux. Soyons comme Jésus, pas seulement dans le service, le dimanche matin, dans l'action, dans le faire, tout ce qui tourne autour du culte, mais soyons aussi ces personnes qui prennent le temps d'aller vers ceux qui ont besoin, vers les pauvres, vers les opprimés, pour parler avec eux. Et donc, malheureusement, les pharisiens, pour eux, ils se considéraient sans péché et ils n'ont pas franchi le pas de la repentance. Et pour eux, le dessein de Dieu ne pouvait être qu'anéanti. Et Jésus finit en disant « Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Je comprends ça comme toutes ces personnes de mauvaise vie qui sont dans la présence de Jésus, qui côtoient Jésus, qui passent du temps avec lui, finalement, avec le temps, se voient transformées, se voient régénérées, changer complètement de cap, de direction. Et ça, c'est Jésus qui l'opère quand on passe du temps avec lui. Et Jésus aussi, il définit ce que c'est qu'un ami. En Jean 15, lorsqu'il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Là, on voit que Jésus ne s'est pas contenté que de baptiser, mais de prendre du temps et d'être un ami pour nous. Et pour comprendre ce que c'est qu'un ami, il suffit de regarder le verset 13 de Jean 15, qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et nous, nous nous plaçons où dans tout ça? Comme des gens seulement impliqués dans le ministère, dans le service, annonce de l'évangile? Ou est-ce que nous prenons le temps de nous faire amis avec ceux que le monde ne veut plus, que le monde a catégorisé, ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui sont abandonnés. Et nous ne pouvons pas lire dans les cœurs, mais nous pouvons prendre le temps de parler, comme à cette dame que j'ai rencontrée à Bordeaux, dans la rue, cette dame à qui la vie a sans doute joué encore des tours, qui me racontait qu'elle était en Afrique, on allait dans un magasin, vous savez, vous donnez une pièce, vous continuez, mais ça a duré plus longtemps. Parce que cette dame, elle avait un témoignage avec son mari en Afrique. Ils avaient une entreprise prospère, ils sont venus en France. Son mari est décédé, l'entreprise a fait faillite. Elle s'est retrouvée dans la rue et on a parlé de la foi. Elle disait qu'elle avait la foi, cette dame. Elle disait qu'elle ne se plaint pas de sa situation. Elle a connu de beaux jours et là, ça ne va plus. Elle se tourne vers ceux qui passent dans la rue. Ce qui donne, on prend, ce qui ne donne pas, tant pis. Mais cette dame, elle m'a beaucoup marqué par la chaleur qu'elle dégageait. Et au lieu de passer 30 secondes avec elle. J'ai passé près de 20 minutes. Et voilà, je pense que c'est important d'écouter, s'écouter les uns les autres, de compatir, d'aider à la hauteur de nos moyens, sans nous forcer. Et je voudrais conclure en rappelant ces trois encouragements pour nous, de ne pas attendre du Seigneur les choses comme s'il nous les devait. On peut tout lui demander, mais parfois nous sommes tellement égoïstes, égocentriques, que nous pensons que le Seigneur doit nous faire des choses parce que nous lui avons fait. Mais c'est pas ça en fait. Parce que Paul nous dit qui était le premier à donner au Seigneur pour en recevoir en retour. C'est le Seigneur qui a été le premier à nous donner. Même si on laisse le salut qu'il nous a donné de côté, il est le premier qui nous a créé. Il nous a donné la vie. C'est à nous de lui donner en retour. Et en plus de cette vie, nous, on était égarés, on était loin de sa face. Il nous a donné son Fils. Il nous a apporté le salut. Donc ne regardons, ne demandons plus au Seigneur comme si nous le méritions. Ou même entre nous, n'attendons pas du frère, de la sœur chrétien, de lui, d'elle, la chose qui nous ferait plaisir, comme si nous le méritions, comme si il le fallait, comme si c'était notre droit. Ne fondons pas nos espoirs sur les hommes et leurs promesses. Un deuxième encouragement, nous avons aujourd'hui la possibilité de vivre comme le Seigneur Jésus a vécu, de vaincre le péché et de plaire en tout point à Dieu par le moyen de la grâce qui découle de sa mort à la croix, parce qu'on est dans la nouvelle alliance. Et un troisième point, le Seigneur s'est fait notre ami. Il a donné sa vie en rançon pour chacun de nous. Et il n'a pas eu honte de nous considérer comme ses amis, même si on était des gens de mauvaise vie. Suivons donc l'exemple de notre Sauveur, en ne nous contentant pas seulement d'annoncer l'Évangile, ou en nous limitant au service le dimanche matin, mais que le Seigneur nous montre ceux qui souffrent, que le Seigneur nous montre vers qui aller pour les aider à saisir la main du Seigneur à leur tour. Prenons le temps de nous écouter, de prier les uns pour les autres, de parler ensemble avec nos compassions sincères, de partager la peine des uns et des autres. Et présentons-leur le Seigneur sans forcer, avec bienveillance, avec respect. Que le Seigneur nous bénisse, pardon, d'avoir été aussi long. Je vais prier.